Monsieur Patrick David, merci d'accorder cette interview à la radio d'ONU Info. Donc, un nouveau communiqué de la FAO annonce que la faim a régressé pour la première fois depuis le début de la crise de Boko Haram. Donc, peut-être pour commencer, vous pouvez nous dire pourquoi cette régression de la faim ?
Écoutez, c'est une régression très sensible. Pour rappeler un peu le contexte au nord-est du Nigeria, donc il y a eu effectivement une insurrection créée par un groupe islamique qu'on appelle couramment Boko Haram, qui a atteint un certain niveau de violence tel que ça a provoqué beaucoup de déplacements de population. Les gens ont quitté leur village et se sont regroupés dans la principale ville de l'État du nord-est, de Maïdougouri. Et plus de 2 millions de personnes ont été déplacées. De nombreuses personnes ont été même victimes. Beaucoup de personnes, en particulier des femmes et des jeunes filles, ont été kidnappées. Donc il y avait une telle violence que les populations ne pouvaient plus rester sur place. Elles craignaient pour leur vie, leur sécurité. Donc 2 millions de personnes, c'est vraiment énorme. Se regroupent auprès des communautés hôtes, donc qui rajoutent un poids supplémentaire, un fardeau sur ces communautés hôtes, qu'elles doivent partager leurs ressources, partager l'alimentation. Et donc la situation, globalement, s'est détériorée depuis 2009, qui était vraiment le début significatif de la crise. Par ailleurs, le fait que Boko Haram s'est étendu beaucoup dans le nord-est, les marchés ont été très affectés. Les mouvements de transhumance du bétail dans des zones sahéliennes. Le pastoralisme est très important. Donc ces mouvements de transhumance ont été très perturbés, les marchés ont été très affectés, les prix ont augmenté de façon très très significative, ce qui fait que les gens dépendent du marché pour s'alimenter, ont vu les prix augmenter, leur pouvoir d'achat, et sans être directement affectés, ont eu un impact sur leur sécurité alimentaire et le statut nutritionnel. Donc lorsqu'on a pu finalement avoir accès à des nouvelles zones, on a découvert vraiment l'ampleur du dégât, c'était surtout en 2016, ce qui fait qu'en 2017, on a mieux compris la situation. Et d'après nos estimations, que la FAO et le gouvernement et des partenaires, on estimait en 2017 que plus de 5 millions de personnes étaient en insécurité alimentaire, dans certaines proches de situations de famine, c'est-à-dire total dénuement et vraiment plus accès à la nourriture. Donc la situation était extrêmement grave et cela a provoqué vraiment un sursaut au niveau du gouvernement du Nigeria et de la communauté internationale qui est venue appuyer le gouvernement pour vraiment apporter une réponse adéquate, en particulier en matière de sécurité alimentaire et de lutte contre la malnutrition. Donc il y a une augmentation des équipes, on a augmenté les bureaux, les capacités de réponse et il y a un apport massif pour lutter contre la sécurité alimentaire et la malnutrition. En fait, on a travaillé sur deux plans. Il y a eu d'abord, les Nations Unies ont apporté un soutien d'assistance alimentaire très important à travers le Programme Alimentaire Mondial, le PAM, qui désormais assiste tous les mois plus de 2 millions de personnes dans des conditions vraiment très difficiles et dangereuses, même puisque l'insécurité prévaut encore dans la majeure partie du nord-est du Nigeria. Et en parallèle, beaucoup de personnes qui étaient déplacées, des communautés hôtes, en fait, avaient malgré tout un accès à la terre qui leur permettait de pratiquer l'agriculture même en étant déplacés et de partager la terre avec les communautés hôtes. Et donc la FAO est intervenue pour renforcer leurs moyens d'existence à travers des réponses qui visent l'agriculture, la production de céréales, des haricots, de légumes pour diversifier et enrichir d'aliments nutritifs la ratio alimentaire. Nous avons atteint plus de 1 700 000 personnes avec ces programmes agricoles et d'élevage également, qui font que assistance alimentaire plus renforcement des moyens d'existence, renforcement de l'agriculture, et qu'on a diminué le nombre de personnes en insécurité alimentaire. Donc il y a quelques mois, on était à 5,2 millions de personnes en insécurité alimentaire, comme j'ai dit, et maintenant nous sommes à 2,6 millions de personnes en insécurité alimentaire, donc c'est une baisse de 50%, c'est vraiment très significatif. Donc c'est un grand succès pour le gouvernement et la communauté internationale. À côté de ça, il faut aussi mentionner que l'insécurité s'est un peu stabilisée et on voit une légère reprise des marchés. Donc tous ces facteurs mis bout à bout fait qu'on a contribué à cette situation. Mais c'est une situation qui reste extrêmement fragile parce que vous comprenez bien qu'à apporter tous les mois de l'alimentation, s'il y a des problèmes dans les distributions, s'il y a des ruptures de stock, très vite les populations n'auront plus accès à cette ration habituelle et donc la situation peut se détériorer très rapidement si on n'arrive pas à maintenir ce niveau de soutien. C'est la raison pour laquelle le PAM et la FAO Donc pour l'assistance alimentaire et pour l'agriculture et l'élevage, on travaille vraiment de façon très très étroite ensemble pour pouvoir apporter des réponses plus durables pour que les personnes qui passent l'agriculture puissent conserver des semences et pouvoir les utiliser l'année suivante par exemple. Mais la situation reste encore très très fragile. Je dirais que c'est un grand succès et vraiment précaire.
Et donc vous parlez justement de programmes qui ont été mis sur place avec bien sûr le PAM et la FAO. Est-ce que vous avez un ou deux exemples concrets de région ou est-ce que vous avez vraiment aidé les communautés?
Oui, conjointement avec le PAM dans certaines régions de l'état de Yobe, qui est un des trois états du Nord-Est, et on pourrait dire la même chose dans la banlieue de Maïdougouri, qui est la capitale de l'état de Borno, un autre état du Nord-Est. On a travaillé conjointement, c'est-à-dire que lorsque les ménages ont accès à la terre, ce sont souvent les ménages les plus vulnérables que l'on cible, tels qu'ils sont dans le besoin. Donc, en début de saison des pluies, on a distribué 8 kilos de semences de mil avec 10 kilos de semences de haricots, peuvent cultiver comme ça un hectare et les pluies ont été bonnes et généreuses. Avec les récoltes, le ménage peut avoir utilisé cette récolte et couvrir les besoins alimentaires pendant 6 à 8 mois. Il est énorme. Pendant 6 mois à 8 mois, on peut vraiment diminuer de façon très significative l'assistance alimentaire. Et là où c'est également intéressant de travailler avec les programmes alimentaires, c'est avant les récoltes, ce qu'on appelle la période de soudure, qui est vraiment extrêmement critique. Et là, le PAM intervient. Donc, il intervient d'abord pour un peu protéger les semences, pour que les semences ne soient pas mangées, bien évidemment. Et donc, le PAM donne une ration alimentaire, du riz et des haricots, de l'huile. Mais au moment des récoltes, ce sont les familles qui produisent elles-mêmes leur propre nourriture. Et donc, on voit bien le lien entre l'assistance humanitaire et un début de la résilience des ménages.
Et en ce moment, c'est la saison des pluies ou c'est la saison sèche en ce moment?
La saison des pluies, ça dure du mois de juin, juillet jusqu'à septembre. C'est 3 mois seulement. C'est vraiment très, très court. On distribue des variétés locales adaptées. On n'importe aucune autre variété, bien évidemment. Et maintenant, c'est la saison sèche. La saison sèche, en fait, les températures sont plus basses. Ça permet la culture de nombreux légumes, des légumes locaux, beaucoup à base de feuilles, qui permettent d'enrichir les sols, d'enrichir les plats, et c'est nutritif puisque les légumes apportent beaucoup de vitamines et de micronutriments. Et des légumes c'est un peu plus occidentaux, on tient de la tomate, ça apporte aussi de la diversité alimentaire et c'est une source de revenus. Et ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle le programme de saison sèche, de maraîchage, qui est surtout entrepris par les femmes. Et c'est une source de capitaliser cette production pour l'alimentation du ménage, mais également il y a des revenus. C'est très important de comprendre que la société fonctionne de manière que la femme peut avoir son budget, l'homme peut avoir son budget, mais que lorsque la femme a son propre revenu, elle l'utilise de façon peut-être plus adéquate pour la nutrition des enfants, les soins de santé des enfants, éventuellement l'éducation. Et donc, cibler les femmes, c'est très important, ça contribue à la politique de renforcement, l'autonomisation des femmes, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et là, on trouve l'occasion, à travers ce programme de maraîchage de contre-saison, d'appuyer les femmes. Dans certains cas, je voudrais rajouter une chose qui est également très importante dans le contexte du Nord-Est, c'est beaucoup de ménages sont dans les camps, mais parfois les ménages sont séparés, les femmes se retrouvent seules. Et ce n'est pas tellement accepté culturellement qu'une femme soit seule avec ses enfants, sans son mari ou sans un homme qui soit auprès. Et donc parfois des femmes sont un peu plus exposées à des violences, elles ont besoin davantage de protection. Et en apportant des approches comme du micro-jardinage, par exemple, de les voir sortir sur leur parcelle pour justement cultiver, elles peuvent faire ça de manière courte ou à côté de leur tente pour avoir un peu de diversité alimentaire et ça les évite d'exposer. Et c'est quelque chose de très important parce qu'en plus d'être une crise de sécurité alimentaire et de malnutrition, c'est également une crise de protection. Il y a de nombreuses victimes de violences, de kidnapping de femmes et de jeunes filles, et il y a d'abus sexuels lorsque les femmes sont un peu isolées. Donc la FAO essaye d'intégrer la composante de lutte contre la violence sexuelle à travers ces programmes de maraîchage de contre-saison.
Vraiment, vous aidez à tous les niveaux, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Il faut intégrer de plus en plus les Nations Unies essayent de travailler ensemble justement pour intégrer toutes les composantes. Faire de l'agriculture seul ne suffit pas. Il faut vraiment travailler avec le PAM, mais également avec les autres agences plus impliquées dans le renforcement de l'autonomisation des femmes, de la protection de tous, y compris celles des femmes, parce qu'elles sont particulièrement ciblées et vulnérables au nord-est du Nigeria.
Et donc, dernière question, Patrick David. Que continue de faire la FAO pour ces prochains mois ou ces prochaines années au Nigeria? D'accord, ce rapport est très positif, mais l'assistance doit continuer, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. L'assistance humanitaire doit continuer. Comme je l'ai dit, la situation était très précaire. Il faut continuer à diversifier un peu le soutien des populations les plus vulnérables à travers leurs moyens d'existence. Donc, on a beaucoup parlé de l'agriculture, l'agriculture de pluviale et l'assistance alimentaire qui a fait baisser les taux d'insécurité alimentaire contre saison, mais il y a aussi des activités de bétail. Le petit bétail est justement souvent pris en charge par les femmes et leur permettre de recapitaliser avec quelques chèvres et un bouc, ça leur donne un peu d'épargne en quelque sorte. Parce que avoir quelques troupeaux, quelques chèvres, en cas de coup dur, on peut vendre la chèvre. C'est la banque locale, je dirais. Et c'est géré par les femmes, c'est une autre façon également de renforcer leur autonomisation, s'assurer qu'elles ont un revenu. Et le troupeau, lorsqu'il est bien géré, ce qui arrive très souvent, avec les reproductions, le capital augmente, je dirais. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant qu'on soutient. Le programme est en cours. De distribution de chèvres et de boucs qui s'aèlent là, qui sont très prolifiques et très résistants. Donc c'est un moyen également. Et ça, on va continuer. Donc on va en train de préparer également le programme pour 2018. Ce sera également basé sur un soutien à l'agriculture pluviale avec distribution de semences, de céréales, de haricots, de légumes. Et ce qu'on va chercher à faire surtout, c'est essayer de faire en sorte qu'on ait des beaucoup plus durables et qui permettent d'intégrer davantage la durabilité dans nos approches, c'est-à-dire, par exemple, de faire en sorte que l'accès aux semences soit plus facilité par les ménages de la région du Nord-Est, en soutenant la production de semences au niveau local. On va également développer des approches, intégrer nos bénéficiaires aux filières agricoles, vraiment faire les producteurs agricoles et les marchés. Et donc, il y a des tas de choses à faire. Et lorsque un ménage a accès à un marché, il pourra vendre régulièrement et être plus fort en cas de coup dur, puisqu'il sait qu'il aura toujours la capacité d'accéder au marché. Donc ça, c'est l'approche chaîne de valeur, quelque chose lié aux filières agricoles et au marché agricole, quelque chose d'important qu'on va soutenir avec le soutien de nos partenaires.
Patrick David, merci beaucoup pour cette interview.
Je vous remercie également et à bientôt peut-être.